Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute ? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches. Tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
Bonjour et bienvenue sur Langue de Prune. Aujourd'hui, c'est moi, Axel, qui vais vous accompagner pendant cette heure avec mes camarades habituels, Azilis.
Bonjour.
Louis.
Bonjour.
Et Guillaume.
Bonjour.
Langue de Prune, c'est l'émission qui vous parle des langues, de langages, de leur histoire et de leur évolution. Le mois dernier, nous avons voyagé en évoquant le français, ses échanges avec les autres langues du monde. Ce mois-ci, nous allons à la fois nulle part et très loin. Nous allons vous parler des langues construites. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises l'histoire des langues, leur transformation, donc plusieurs milliers d'années de brassage, d'isolation, de rebrassage. Le français, par exemple, tel que nous le parlons aujourd'hui, c'est le fruit de milliers de locuteurs sur des milliers d'années. Mais il est arrivé, à plusieurs reprises dans l'histoire, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, qu'une ou plusieurs personnes s'assoient à une table et se disent « Et si je faisais une langue, là, maintenant, tout de suite ? Et si j'inventais, comment on désigne ceci, cela ? Et avec quelles règles de grammaire est-ce que je vais enrober tout ça ?» Aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous quelques exemples de création de langue et répondre à quelques questions, comme par exemple « Pourquoi faire ça ? Comment ? Qu'est-ce qui fait que certaines de ces langues ont des locuteurs des années après leur création, alors que d'autres disparaissent quasiment tout de suite après ?» Louis va nous parler en détail d'une de ses langues les plus célèbres, mais en même temps qui est très mal connue, l'espéranto. Guillaume, lui, nous fera le portrait d'un maître en la matière de la création de langue, J.R.R. Tolkien. Et je suivrai en vous parlant de quelques langues créées pour des œuvres de fiction. Azilis, enfin, nous parlera d'une langue créée par une femme pour les femmes. Et comme d'habitude, notre émission sera entrecoupée de nos chroniques. D'ici et d'ailleurs, l'étymologie en folie et à qui la faute ? Qui va d'ailleurs aujourd'hui ouvrir la marche.
À qui la faute ?
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour célébrer les 1 an de présidence de Macron, il y avait eu une grande fête, organisée par des militants et militantes de gauche. Ça s'appelait la fête à Macron. Et à l'époque, Marlène Schiappa s'était révoltée sur Twitter. Au-delà du sujet, il est insupportable de voir cette tournure grammaticale promue par des élus. La fête de Macron eût été plus correcte. Penser que les classes populaires ont besoin d'une langue française dégradée pour s'y reconnaître, c'est les mépriser. Et là, Elia Véron, qui est linguiste, avait lu son tweet et l'avait clashé en retour. Deux contresens. Un, il y a une différence de sens importante entre la fête de Macron et faire la fête à Macron. Le deuxième est l'antiphrase ironique du premier. Deux, une tournure populaire n'est pas une langue française dégradée. On appelle ça l'usage. Po, po, po ! Hashtag 5 mai, fête à Macron, hashtag la fête à Macron. Et oui, c'est un jeu de mots. L'idée, c'était quand même de lui faire sa fête. Et le vrai mépris vient plutôt d'une ministre qui qualifie de faute une tournure utilisée très fréquemment par le peuple qu'elle prétend défendre. Et c'est de cette prétendue faute dont on va parler aujourd'hui. De l'utilisation de la préposition « à » pour indiquer la possession. Comme dans le micro à Guillaume. La tournure qu'on considère habituellement comme la seule correcte, c'est celle avec « de », le micro de Guillaume. Mais remontons un peu en arrière, au Moyen-Âge, à cette ancienne époque où on parlait ancien français. Cette tournure avec « a » était alors très fréquente. Je vais vous donner quelques petites expressions qu'on trouve dans un roman de Chrétien de Troyes, Perceval. Il y avait « la fille à seigneur », donc la fille du seigneur, « fieux sa putain », fils de pute. Cette forme était alors en concurrence avec la forme avec de et avec la construction directe, donc sans préposition. Par exemple, c'est celle qu'on a toujours dans Hôtel Dieu, qui veut dire en fait l'hôtel de Dieu, la maison de Dieu, l'hôpital. Et puis encore aujourd'hui, cette tournure, elle est très courante. Donc ce que les grammaires traditionnelles considèrent généralement comme une faute, c'est quelque chose qu'on utilise et depuis des siècles. Laëlia Véron avait d'ailleurs aussi rétorqué à Marlène Schiappa que c'était une tournure qui était présente dans le célèbre et très réputé dictionnaire « Le trésor de la langue française ». Donc lutter contre cette tournure, c'est plus, je pense, une volonté de distinction sociale que vraiment chercher à préserver notre langue. Parce que cette tournure, c'est un marqueur social. On l'utilise beaucoup dans les classes populaires. C'est pas pour rien que Victor Hugo l'a mise dans la bouche de Gavroche, le petit garçon des rues, des misérables.
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau.
Et un siècle plus tard, Renaud, le spécialiste de l'argot, l'a chanté à son tour.
C'est tout petit. Chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie.
Et puis, il n'y a pas que. Enfin, moi, je le dis très souvent. Est-ce que vous aussi, vous le dites ?
Oui.
Bah oui.
Oui, on dit sans s'en rendre compte, en fait. Hein.
Bah ouais, donc à un moment, faut arrêter d'être hypocrite. C'est carrément du français, c'est pas une faute. Enfin, c'est mon avis. C'est l'avis à Asilis.
Et merci Asilis pour cet avis. Louis va maintenant nous apprendre à parler l'espéranto. Attention, tu as 10 minutes.
Alors, je ne sais pas si à la fin de cette émission, vous allez pouvoir parler espéranto pour autant. Mais dans tous les cas, je ne vois pas comment parler des langues inventées sans parler de l'espéranto. Vous en avez peut-être vous-même entendu parler. Le plus probable, c'est que vous en ayez dit du mal. Enfin, principalement du mal. Moi-même, je l'avoue, hein, je n'avais pas une super opinion de l'espéranto, la voyant plutôt comme une langue qui a échoué. Mais tout a changé lorsque j'ai appris l'histoire et l'intention derrière cette langue. Alors je vous invite désormais à suivre la même redécouverte que moi de l'espéranto, en commençant par son histoire. On parlera ensuite de ce qu'est l'espéranto concrètement, linguistiquement, puis on finira par voir comment se porte cette langue de nos jours. Le début donc. C'est en 1887 que paraît un manuscrit du titre de « Langue internationale, préface et méthode complète ». C'est l'acte de naissance de l'espéranto. Il est signé du pseudonyme Doctoro Esperanto, le docteur qui espère. Et c'est ce qui donnera cette langue à son nom. Le docteur Esperanto, on connaît son nom. C'est Louis Zamenhof. Zamenhof, c'était un Polonais juif qui pratiquait l'ophtalmologie. Pas exactement un linguiste, a priori. Toutefois, l'idée d'une langue internationale, il l'a eu assez tôt, dès sa jeunesse. On a même des traces d'ébauche qu'il avait imaginées alors qu'il avait que 19 ans. Il avait récité un texte devant son lycée d'une langue qu'il avait imaginée. S'il a eu envie d'une langue inventée, c'est en raison du milieu dans lequel il a évolué. Il est né à Bielsk en 1859, ville dans laquelle il a grandi jusqu'à ce que sa famille déménage à Varsovie alors qu'il avait 14 ans. Ces deux villes, elles ont un point commun. Elles sont en Pologne, en tout cas aujourd'hui. À l'époque, elles étaient sous domination russe. Elles étaient carrément même dans l'Empire russe, occupées. Le même problème se constatait alors, que ce soit à Bielsk ou à Varsovie. La population y était fortement cosmopolite, les différents groupes se haïssant. Il y avait des Russes, des Polonais, des Juifs, pour citer les groupes les plus importants. Et chacun parlait des langues différentes. L'enfance de Zamenhof, du coup, elle a été marquée par les affrontements, parfois très violents, entre communautés ethniques et linguistiques. C'est durant ces épisodes qu'il développa l'idée que si tous ces gens pouvaient se comprendre, bah, ils ne se battraient pas. Il suffit d'une langue commune pour qu'on s'aime tous. Seulement, en l'absence de soutien de sa famille, il a dû attendre d'avoir fini ses études et d'être marié afin de pouvoir mener à bien son projet. L'aide financière que lui apportait son riche beau-père lui fut aussi d'une grande aide. On va pas se mentir. L'idéal de Zamenhof étant internationaliste, c'est pas facile à dire comme mot, hein, pas besoin de langue inventée pour avoir des difficultés, celui-ci se mit en retrait dès que sa langue commença à se répandre. Il voulait que chacun s'approprie la langue et qu'il ne soit pas vu comme un maître à penser hégémonique. C'est ceci en partie qui permit à l'espéranto de prendre le pas sur le volapük, une autre langue inventée qui était très en vogue à l'époque, mais beaucoup plus élitiste dans le principe. Dès lors, l'espéranto se répand comme une tache d'huile. Dès l'apparition de son manifeste, Zamenhof l'envoie à un maximum de scientifiques, écrivains, rédactions de journaux, etc. Beaucoup sont séduits et commencent à apprendre, puis même à enseigner la langue, au départ principalement en Russie. En 1888, Zamenhof publie un dictionnaire russe-espéranto qui sera lui-même traduit dans de nombreux pays par des espérantistes locaux. De nombreuses revues sur l'espéranto voient le jour, particulièrement dans les années 1900. Tout n'est pas toujours aisé, cela dit, puisqu'en 1895, la revue russe La Esperantisto, principale raison du développement de l'espéranto en Russie, est interdite en raison de la publication de textes subversifs. C'est un coup dur pour l'espéranto parce que, encore une fois, la plupart des espérantistes de l'époque étaient russes. Et ce texte subversif, d'ailleurs, n'avait été écrit par nul autre que Léon Tolstoï. Comme quoi, il y avait aussi des personnes très très connues qui utilisaient l'espéranto à l'époque. C'était un vrai phénomène d'époque. On constate par ailleurs un fort mouvement français. Sur les 60 journaux espérantistes existants en Europe en 1914, 20 sont français. Ça fait un bon tiers quand même. Le mouvement se constate également, toujours en France, par la création de clubs d'espéranto, de lectures publiques de revues ou encore de conférences de présentation. L'espéranto est alors particulièrement bien vu par ceux qui défendent une simplification du français. Comme quoi, ça date pas d'aujourd'hui. La période 1887-1914 est donc un grand moment de popularité pour l'espéranto, gagnant un nombre important d'adhérents. Mais la Première Guerre mondiale vient mettre un premier temps d'arrêt à cette expansion et met un sérieux coup au rêve de paix porté par l'espéranto. C'est pas une surprise. L'espéranto reposait principalement sur des conférences, sur des revues, sur des échanges entre les populations, et soudainement tout le monde doit s'arrêter. Zamenhof d'ailleurs, alors que la Première Guerre mondiale éclate, il se trouvait en Allemagne, il était en route vers la France pour une de ses fameuses conférences. Bah du coup, il a dû faire demi-tour et retourner en Pologne. Ça n'a pas été facile d'ailleurs. Mais le plus dur des coups est porté par la montée des nationalismes après la guerre. Hitler décrit dans Mein Kampf l'espéranto comme un outil de domination juif. Goebbels en a même parlé comme une langue de juifs et de communistes. L'espéranto fut interdit en Allemagne dès 1933, sans surprise. Bien que qualifié de communiste, l'espéranto n'a pas bonne presse non plus en URSS, qui l'interdit également, et Staline fait envoyer ses locuteurs au goulag, jugeant dangereux leur cosmopolitisme. En France aussi, d'ailleurs, le pouvoir n'a pas toujours bien vu l'espéranto. Et c'est en 1922 qu'interdit son enseignement à l'école, avant d'être encouragé de nouveau en 1938. Toutes ces interdictions portèrent un coup sérieux à l'espéranto, qui n'a pas connu une nouvelle dynamique à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'en était trop. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'histoire de l'espéranto, vient donc la question qui tue. C'est quoi l'espéranto? Comment ça marche? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espéranto est une langue dite a posteriori. Ça signifie qu'elle reprend des éléments de langue existante. Donc Zamenhof avait l'intention que sa langue soit la plus intuitive possible, et donc en effet, il s'est pas juste mis devant sa feuille, il a dit « Ah bah tiens, ça va être tel mot, qu'est-ce qu'on s'amuse ?» Non, il a repris toutes les structures de langues déjà existantes en Europe, principalement, et pour la rendre plus facile à apprendre. La rendre la plus proche possible des langues européennes était donc pour lui la meilleure manière d'obtenir une intuitivité d'apprentissage. À cela s'ajoute le fundamento, c'est-à-dire les seules 16 règles qui construisent l'espéranto. 16, pas une de plus, et aucune exception grammaticale. Les verbes ne varient pas non plus selon le genre et la quantité. On fait une conjugaison simple, c'est tout. Enfin, l'espéranto a un alphabet de 28 lettres. Chaque lettre donne un son, chaque son donne une lettre. Pas de lettres muettes. Tout est fait pour que l'espéranto soit le plus simple possible à apprendre et à comprendre. Encore une fois, l'idée est d'unir tout le monde sur une langue facile à apprendre. Il faut toutefois garder en tête que l'espéranto est construit sur nos langues à racines indo-européennes, ce qui en fait une langue bien moins évidente à apprendre en dehors de l'Europe. D'autre part, un élément fondamental de l'espéranto, c'est que la majorité du sens d'un mot se trouve à la fin de celui-ci. Pour prendre quelques exemples, un mot qui se termine en « a », c'est forcément un adjectif. Un mot qui se termine en « e », c'est forcément un adverbe. Et bien d'autres encore. Les suffixes sont essentiels également. Ils permettent de faciliter l'apprentissage du vocabulaire. Pour prendre un exemple encore, « père » se dit « patro » et « mère » se dit « patrino ». Ça marche même pour les nationalités. Français se dit « franca », allemand se dit « germana », italien se dit « itala », coréen se dit « coréa ». Vous avez saisi l'idée. L'espéranto, toutefois, n'est pas entièrement sans défaut. Déjà, depuis sa création, les pratiquants sont très réticents à l'idée de faire évoluer la langue. Ce n'est pas la faute de Zamenhof, car lui-même avait proposé des réformes, sans succès. D'ailleurs, aucune proposition de réforme n'a fonctionné. Si bien que l'espéranto que nous parlons aujourd'hui est peu ou prou identique à l'espéranto de 1887. Que ce soit un avantage ou un défaut, je vous en laisserai juger. Cela mène toutefois à des interrogations. De nombreuses œuvres ont été traduites en espéranto. Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, par exemple. Rien que ça. Toutefois, étant donné la nature, ouvrez les guillemets, parfaite de l'espéranto, on perd beaucoup de styles linguistiques et des imperfections voulues dans le texte. Là où laisser l'espéranto se développer de la même manière que les langues naturelles permettrait de régler ce souci. Un peu comme on a de nouveaux mots qui apparaissent en français, genre « bolos » ou des styles complets comme le verlan. Mais du coup, où en est l'espéranto aujourd'hui ? Comme je l'ai dit au début de cette thématique, l'espéranto est dans une situation un peu bâtarde. D'un côté, la langue est souvent mal vue, voire moquée. On lui reproche d'avoir échoué dans son but, que très peu de personnes la parlent, qu'elle n'a aucune utilisation concrète et que sa construction est trop idéalisée, rendant son apprentissage particulier. Moi-même, j'étais venu à penser ce genre de choses. Or, d'un autre côté, on sait que l'espéranto connaît un nouveau souffle aujourd'hui. Selon les chiffres, qui varient selon les sources, il y a entre 100 000 et 2 millions de locuteurs. Mais on est plus proche des 2 millions, pour être honnête. Mais c'est dire à quel point c'est difficile de mettre un chiffre précis sur le nombre de locuteurs de l'espéranto. Des initiatives sont régulièrement prises pour faire avancer son apprentissage. Les espérantistes, aujourd'hui encore, essaient de faire passer une résolution à l'Union européenne pour que l'espéranto soit reconnu au même titre que les 24 autres langues officielles de l'Union. Il y aurait des applications très concrètes à cela. Là où aujourd'hui, seuls 5% de la totalité des textes produits par l'Union européenne sont traduits, car ça coûterait trop cher, avoir l'espéranto comme intermédiaire serait un bénéfice commun certain. Attention toutefois à ne pas l'avoir comme une langue de communication principale. Ce serait une mauvaise chose que de vouloir faire de l'espéranto une langue unique, car il est vrai que la diversité linguistique fait aussi partie de notre patrimoine et de nos cultures. Mais l'espéranto pourrait être simplement une langue d'échange entre deux locuteurs qui ne se comprennent pas, une sorte de pont linguistique.
Et merci Louis pour cet éclairage et pour accompagner tout ce qu'il vient de nous présenter. Nous allons écouter maintenant une chanson qui est justement en espéranto. Ça vous donne une idée aussi de quoi ça va comment ça sonne. Et la chanson, c'est Super Bazaro de Martin Weiss.
Estus electo de varoi, quiom mi molas.
Langue de prune.
Vous êtes sur Prune 92 FM et vous écoutez Langue de prune, l'émission où on n'a pas la langue dans nos poches. Et c'est maintenant au tour de Guillaume de vous parler d'une célébrité de la linguistique et de la création de langues.
Alors, John Ronald Reuel Tolkien, je suis désolé pour son troisième prénom, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, ou plus connu sous J.R. Tolkien, est né le 3 janvier 1892 et est un écrivain, poète, philologue, essayiste et professeur d'université britannique. Et pour ceux qui n'avaient pas encore deviné, je vais vous parler du père du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Et je vais vous parler plus précisément du rapport que Tolkien avait avec les langues, et notamment les langues construites, ainsi que les langues qu'il crée lui-même. Mais mettons-nous d'abord à jour au niveau des dates. Le Hobbit est publié en 1937 et Le Seigneur des Anneaux sort en 1954 et 55. Le premier, La Fraternité de l'Anneau, aussi connue sous La Communauté de l'Anneau lors de sa première traduction, sort en juillet 54, tout comme Les Deux Tours qui sort la même année en novembre, et le troisième tome sort en octobre 55. Donc vraiment très peu de temps entre chaque publication. Tolkien décède en 1973 à 81 ans. Et par la suite, beaucoup d'œuvres ont continué à être publiées à titre posthume par l'un de ses fils, Christopher Tolkien. La dernière publication en date date justement de 2018 avec La Chute de Gondolin. Et aussi, beaucoup de ses œuvres qui sont sorties à titre posthume font partie de l'univers de la Terre du Milieu. Il se passionne des langues construites en parallèle de ses travaux professionnels. Donc il a une passion qu'il appelle son petit vice secret à la construction pure et simple de tout un vocabulaire imaginaire avec son lot de notes étymologiques et de grammaire fictif. Pas moins d'une dizaine de langues construites figurent dans Le Seigneur des Anneaux, au travers de noms de lieux ou de noms des personnages, des brèves allusions discursives ou de chants et de poèmes. L'ensemble participe à la vraisemblance du récit, chacun des peuples de la Terre du Milieu ayant ses traditions, son histoire et ses langues. Tolkien aborde sa conception personnelle des langues construites dans un essai, Un vice secret, issu d'une conférence donnée en 1931. La composition d'une langue, pour lui, relève d'un désir esthétique et euphonique, participant d'une satisfaction intellectuelle et d'une symphonie intime. Il dit avoir commencé à inventer ses propres langues vers l'âge de 15 ans, et son métier de philologue n'est qu'un des reflets de sa passion profonde pour les langues. S'il considère avant tout l'invention d'une langue comme une forme d'art à part entière, il ne conçoit pas qu'elle puisse exister sans avoir une mythologie propre, à savoir un ensemble d'histoires et de légendes accompagnant son évolution. Il commence à concevoir ces langues avant la rédaction des premières légendes et des premières histoires. Considérant qu'il existe un lien fondamental entre une langue et la tradition qu'elle exprime, il est naturellement amené à concevoir son propre légendarium, dans lequel s'inscrivent ces langues. Donc, légendarium est un terme qu'on utilise en anglais, mais on peut le traduire par légendaire en français. C'est un terme employé pour parler ou alors aussi faire référence à une ou alors à tous les écrits que Tolkien a fait sur la Terre du Milieu, donc sont considérés comme un tout. Et il affirme ironiquement n'avoir écrit le Seigneur des Anneaux que dans le but d'avoir un cadre rendant naturel une formule de salutation elfique dans sa composition. Donc voilà, je vous laisse imaginer s'il avait vraiment écrit le Seigneur des Anneaux juste pour dire bonjour en elfique. Tolkien travaille durant toute sa vie sur ses langues construites sans jamais véritablement les achever. Son plaisir se trouve davantage dans la création linguistique que dans le but d'en faire des langues utilisables. Si deux d'entre elles, le Kenya et le Sindarin, sont relativement développées avec un vocabulaire de plus de 2000 mots et une grammaire plus ou moins définie, certaines sont un petit peu moins développées. Donc la première, le Kenya ou Oelfique, est créée au plus tard en 1915. Elle évolue progressivement durant la vie de Tolkien jusqu'à une certaine stabilité à la publication du Seigneur des Anneaux. Le Kenya, je ne sais vraiment pas comment le prononcer, je suis désolé, ne me tuez pas, est une langue à flexion, donc comme le grec et le latin, et son vocabulaire et sa phonologie sont conçus sur un modèle proche du finnois. Au sein de cet univers de la Terre du Milieu, cette langue est la langue des elfes Vanyar et Noldor, installés à Valinor, sur le continent d'Aman. La langue s'implante dans la Terre du Milieu quand les Noldor s'y exilèrent, puis cessa d'être employée comme langue courante, mais subsista comme langue de culture et de cérémonie parmi les elfes, ainsi qu'un peuple des hommes, les Dunedain. J'espère que vous m'avez bien compris. Alors, je vais vous faire un exemple de phrase de Kenya. Je suis aussi, pareil, désolé pour la prononciation. Aï lorielantar, lasi surinen, yeni unotime veramar altaron. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça. Et là, ce que je viens de dire, c'est « Ah, comme l'or tombent les feuilles dans les vents, de longues années innombrables comme les ailes des arbres. » Je ne comprends pas cette phrase non plus en français. Et alors, pour ce qui est du Sindarin, ou gris elfique, écrit quant à elle à partir de 1917. Elle est d'abord appelée gnomique, bien sûr, c'est plus joli, on va dire. Et sa conception va continuer d'évoluer, tant au niveau de ses caractéristiques proprement linguistiques que dans sa place dans la narration. Elle s'inspire très librement du gallois et du norrois dans certains de ses aspects phonologiques, ainsi qu'une bonne part de sa grammaire. Et donc, le Sadarin est la langue des Sadarins, ou elfes gris, qui se développe d'abord au Bel-Orient, pendant le Premier Âge, à partir d'un ancêtre commun aux autres langues elfiques, et plus tard elle est adoptée par divers autres peuples et s'étend à de nombreuses régions de la Terre du Milieu, et devenant ainsi la langue véhiculaire des elfes. Il aime vraiment créer les langues, hein, Tolkien. Il y a toute une raison autour. Et donc, il y a aussi beaucoup d'autres langues auxquelles il fait allusion dans ses écrits qui sont tout juste esquissées. Ces diverses langues sont néanmoins construites sur des bases linguistiques sérieuses, avec une volonté de respecter le modèle des langues naturelles. Par exemple, le Cusdul, la langue des nains, et l'Adunaek ou l'Adunaïk, langue des hommes de Numénor, ressemblent par certains aspects aux langues sémitiques, donc des langues parlées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en particulier dans leur structure trilittère, donc un mot composé de trois lettres, ou dans la présence du procédé comme la mimation. Les langues de Tolkien ne sont pas pour autant de simples copies des langues naturelles et elles ont leurs propres spécificités. Tolkien aussi imagine plusieurs systèmes d'écriture pour ces langues, une écriture cursive par exemple, donc les Tengwar de Fëanor et un alphabet de type runique, les Sir de Dairon, sont illustrés dans les corps du Seigneur des Anneaux. Un troisième système, les Sarati de Rumil, apparaît dans le cadre de la Terre du Milieu, mais Tolkien l'utilise également à la fin des années 1910 pour écrire son journal. Si vous avez réussi à me comprendre entièrement depuis le début, je ne peux que vous féliciter. Mais si ce n'est pas le cas, alors ne vous inquiétez pas car vous avez pu vous rendre compte d'une petite partie du travail que Tolkien a mis pour la construction du monde de la Terre du Milieu. Et je ne peux que vous inviter à lire ses romans afin d'apprécier son œuvre dans sa totalité.
Merci Guillaume. Pour continuer dans cette lancée, je vais maintenant à mon tour vous parler d'une autre langue créée pour des œuvres de fiction, le Klingon. Le Klingon, c'est un des exemples les plus connus de langue construite qui est restée célèbre en fait jusqu'à aujourd'hui. Pour recommencer vraiment par les bases, je vais replacer le Klingon dans l'univers d'où ça vient. C'est une langue qui est originaire donc de la série Star Trek. Star Trek, c'est une série de science-fiction dont la diffusion a commencé en 1966, qui a été ensuite déclinée en plusieurs séries et films. Il y a toujours aujourd'hui une série en cours de diffusion. C'est une série qui décrit en fait un futur lointain qui suit les explorations spatiales d'un équipage de la Fédération, une union de plusieurs planètes dont la Terre fait partie. Je résume vraiment très simplement. Un des antagonistes principaux de la Fédération dans les débuts de la franchise, c'est les Klingons. C'est une espèce d'extraterrestre guerrier originaire de la planète Kronos. Ils sont brutaux, à cheval sur l'honneur, et ils sont complètement à l'opposé des humains, qui sont dans la série en fait des explorateurs pacifistes. Mais c'est un détail important, ce portrait des Klingons évolue avec le temps parce que leur relation avec la Fédération s'apaise. Certains personnages principaux seront même des Klingons sur les séries les plus récentes. Et du coup, leur langue, donc, qu'on appelle tout simplement le Klingon comme leur peuple, ou en version originale Klingon-Hol, a été créée donc pour le troisième film Star Trek, qui est sorti en 1984. On avait entendu un peu des Klingons parler avant, mais c'était quelques phrases, c'était plus ou moins du charabia. C'est en fait un linguiste qui s'appelle Mark O'Krand, donc il est américain, spécialisé dans les langues natives américaines, qui a été engagé par le studio tout simplement qui faisait le film, pour travailler sur la création de la langue. Il avait déjà travaillé un petit peu d'ailleurs avec Star Trek pour la création du Vulcain, une autre langue d'une autre espèce d'alien de la série. Okrand a expliqué que lorsqu'il a rejoint le projet, c'était un peu par hasard. Il avait peu de temps pour développer les phrases qu'on entendait dans le film. Il s'est donc pris un peu à l'envers, par exemple par rapport à Tolkien, qui développait son langage et après mettait les bouts dans le roman. Parce que lui, du coup, il est allé directement vers spécifiquement ce dont le film avait besoin. Et après, au fur et à mesure des films, des séries, c'est lui qui est revenu en fait retravailler sur le Klingon. Et il a continué à ajouter des mots, des constructions, des phrases plus complexes. Il a comparé son travail qu'il avait fait à l'époque en fait à la création d'un plateau de tournage où on construit ce dont on a besoin, on met les meubles dont on a besoin, mais en dehors du plateau, il n'y a rien, il n'y a pas d'espace. On ne fait pas toute une maison entière, on fait juste la pièce où on tourne. Il notait quand même tout ce qu'il faisait, et ça c'est important, tous ses choix de grammaire, de phonétique. Il a tout gardé, tout noté, et du coup il s'y référait quand il revenait, des fois plusieurs années après, pour refaire du Klingon. Et il a quand même publié un dictionnaire Klingon dès 85. Et ça va un peu plus loin qu'un simple dictionnaire. C'est le nom officiel, dictionnaire Klingon. Mais en fait, il décrit aussi dedans la grammaire, il y a la prononciation surtout du Klingon, et en plus du vocabulaire. C'était en fait censé être surtout un guide pour les acteurs de la série, pour les scénaristes qui auraient besoin du Klingon après. Et du coup, ils l'ont publié pour les fans et pour l'argent aussi. Mais avant que je vous en parle vraiment plus en détail, le Klingon, on va écouter un peu à quoi ça ressemble.
Et je me t'avais déjà i, et j'absotas gos pas scrarbaitik, et pas j'age la mot, j'age bouge, j'age kéles molonichok tchou.
Voilà, ça vous donne une idée. Donc là, on a entendu Worf, qui est un des personnages principaux, un des personnages clés de la série Star Trek, qui a chanté donc du coup cette partie-là dans la série Deep Space Nine. Et vous avez donc maintenant une idée de à quoi ça ressemble et comment ça sonne. En fait, la création du Klingon, ça repose sur un paradoxe, parce que c'est une langue qui est parlée par des extraterrestres, mais qui sont jouées par des humains. Il fallait donc que la langue sonne étrangère, inédite, un peu impossible à prononcer, mais que les acteurs puissent quand même la faire avec leur bouche et leur corde vocale. Et donc, lorsqu'il a commencé au Okrand à travailler sur la langue, il y avait déjà, comme j'avais dit, quelques bouts de phrases qui existaient et aussi des noms de personnages. Donc déjà, phonétiquement, il a utilisé ces bouts-là pour déterminer les sons qui sont déjà présents dans la langue. Et c'est pour ça aussi qu'il a commencé par travailler vraiment sur la phonétique de la langue. Et pour tous les autres sons qu'il a ajoutés du coup au Klingon, ça a été en fait des choix délibérés qui se sont additionnés à ça. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est opposé à des règles phonétiques communes dans nos langues humaines pour justement créer cet effet un peu bizarre, étranger, pas naturel. Par exemple, en Klingon, on trouve le son « v ». Et dans un langage humain, normalement, si on a le son « v », il y a aussi le son « f », parce que c'est deux sons similaires. Mais du coup, en Klingon, il n'y a pas de son « f ». Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça crée un effet pas naturel. Il y a aussi, en Klingon, le son « t » et le son « de ». Et dans une langue humaine, comme par exemple en français, si on retrouve ces deux sons, normalement, ils sont prononcés en fait de manière similaire, c'est-à-dire qu'on place la langue au niveau du palais à peu près au même endroit. Mais en Klingon, du coup, le « t » et le « de » sont prononcés de manière complètement différente. Et du coup, encore une fois, ça crée en fait un déséquilibre, on va dire, quelque chose de pas normal. Sa langue, elle brise donc les règles de la phonétique. Et en soi, tous les sons Klingons sont des sons qui sont présents dans une langue ou une autre. Mais en fait, c'est leur regroupement qui est unique. Il allait piocher des trucs vraiment dans des langues complètement différentes. Pour la grammaire, en fait, il a fait un peu pareil. Il est parti de constructions qui sont trouvées dans peu de langues. C'est-à-dire qu'il a essayé de trouver des constructions les plus rares possibles pour qu'elles soient étrangères à la plupart des personnes qui écoutent le Klingon. Concrètement, ça veut dire qu'une phrase klingonne se construit en fait, c'est l'objet, le verbe, le sujet. Et ça, en fait, c'est la combinaison la plus rare dans les langues humaines. Donc là où nous, on dirait par exemple le chat mange ses croquettes, le klingon dit ses croquettes mangent le chat. Et en fait, donc là, du coup, forcément, il y a une utilisation de pronoms pour comprendre un peu ce qui se passe. Et là, les pronoms klingons, il y a à la fois des mots indépendants comme nous on a en français, donc je, nous, vous, yel, mais aussi il y a un préfixe sur chaque verbe qui va aider donc par rapport au sens des mots, qui va donner ce préfixe l'objet et le sujet. Pour expliquer concrètement, par exemple, si je vais dire « je te pousse », et bien sur le verbe, on va mettre comme préfixe « ka ». Et si « je le pousse », le verbe prend le préfixe « vi ». Et si on parle d'un impératif, par exemple « pousse-le », et bien à ce moment-là, on utilise « yi ». Et ça, c'est ça qui permet en fait de comprendre, par rapport au verbe, qui est l'objet, qui est le sujet. Mais en fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, et par rapport par exemple aux langues dont Guillaume a parlé, qu'a créé Tolkien, le Klingon, c'est une langue qui est vivante, qui est en constante évolution. Déjà, comme je vous l'ai dit, depuis la création initiale, Okrand il a continué à travailler avec les scénaristes de films ou de séries qui ont suivi, en enrichissant à chaque fois la langue selon les besoins de la narration. C'est-à-dire qu'il est revenu, qu'il a republié plusieurs fois en fait, des petits guides, et puis en plus, bah, il a rajouté des lignes de dialogue dans des films ou des séries. Mais en fait, surtout, en plus de ça, la langue bénéficie surtout d'une communauté de fans très dévoués. Et d'ailleurs, la série Star Trek est connue aussi pour sa communauté de fans qui sont vraiment très dévoués. C'est une des raisons pour laquelle la série existe toujours aujourd'hui. Les Klingons sont très appréciés et beaucoup de fans en fait, ont décidé d'apprendre la langue. Je dis beaucoup, mais on va mettre ça en perspective. Actuellement, il y a environ une soixantaine de personnes dans le monde qui parlent couramment le Klingon. En fait, c'est principalement des gens qui vont connaître des phrases, le baragouiner un peu, on va dire. En fait, il y a un obstacle principal par rapport à l'apprentissage du Klingon, et ben c'est son vocabulaire. Parce que justement, c'est une langue qui est faite pour des guerriers de l'espace. Donc, il y a plein de choses qu'on utilise tous les jours, qui n'ont pas vraiment de nom en Klingon. Pour vous citer un exemple tout bête, un des premiers mots qui a existé en Klingon, c'est le pont, dans le sens le pont d'un bateau, d'un navire, d'un vaisseau spatial. Mais le pont pour passer au-dessus d'une rivière, et ben ça a été inventé qu'en 2012. Et en fait, c'est un peu à l'image de tout le vocabulaire Klingon, qui a beaucoup, par exemple, de verbes différents pour se battre, frapper, autour de la violence, qu'on ne peut pas forcément utiliser dans une conversation mondaine. Mais en fait, malgré ça, Mark Okrand, il communique beaucoup avec les fans, avec les communautés de fans, qui vont lui remonter en fait très régulièrement des questions de grammaire et surtout des demandes de vocabulaire. Par exemple, le pont dont j'ai parlé, c'est les fans qui ont remonté à Mark Okrand comment on dit ça. Et du coup, après, c'est lui qui va leur faire redescendre ses idées sur le nouveau vocabulaire. De ce fait, il y a en fait quand même beaucoup d'initiatives autour du Klingon qui sont assez surprenantes, qui montrent vraiment bien ce côté fan très dévoué. Par exemple, il y a eu des traductions de plusieurs textes, des grands classiques, donc par exemple Hamlet, c'est assez connu la traduction d'Hamlet. Il y avait en fait dans un épisode un bout d'Hamlet qui avait été traduit, et du coup ils ont fait toute la traduction. Autant y aller avec tout le texte. Il y a aussi par exemple l'épopée de Gilgamesh qui a été traduite en Klingon. Plus surprenant, il y a eu une adaptation théâtrale, donc vraiment dans une salle de théâtre, du chant de Noël de Dickens en Klingon. Le chant de Noël, oui, donc Scrooge qui rencontre le Noël du passé, le Noël du présent, le Noël du futur. Cette langue aussi, vous pouvez l'apprendre vous-même aussi, si vous avez envie. Elle se trouve sur l'application d'apprentissage de langue Duolingo. J'étais tentée d'ailleurs, quand j'ai téléchargé Duolingo il y a quelques années, de m'y mettre. Il y a aussi, et ça je m'en suis rendu compte en cherchant, en fait beaucoup de gens qui publient des cours sur YouTube, un peu partout sur Internet, il y a beaucoup de forums en rapport avec le Klingon. Et c'est une communauté très active, il y a même un institut du langage Klingon qui organise des rencontres annuelles. Voilà. Et maintenant je vais passer le micro à Louis qui va nous parler du Schmilblick.
L'étymologie en folie.
Quoi de mieux quand on parle de langue inventée que de parler de mots complètement inventés? On va donc parler du Schmilblick. Mais oui, le Schmilblick! Vous avez sûrement déjà entendu parler du Schmilblick. C'est donc plus facile à dire de manière répétée que de connaître son sens, non? Bon, dans le doute, on va revenir un peu sur l'histoire de ce mot. Oui, je sais, personne ne se serait attendu à ce que je fasse un peu d'histoire, c'est pas mon genre. Bon alors, le Schmilblick, ça commence quand? Le mot a été inventé par l'humoriste Pierre Dac en 1950. L'idée était que ce mot ne désigne rien d'utile, voire même rien d'existant. Et pour décrire quelque chose, quoi de mieux que la plus longue des définitions possibles ? Je vais vous en citer un extrait, puisque les 5 minutes entières seraient peut-être un peu longues. C'est dans la nuit du 21 novembre au 18 juillet de la même année que les frères Foderche ont jeté les bases de cet extraordinaire appareil dont la conception révolutionnaire risque de bouleverser toutes les lois communément admises tant dans le domaine de la physique nucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Voici donc, d'après la communication qu'ils viennent d'adresser à l'Académie des inscriptions sur les murs et des belles lettres recommandées, quelles en sont les principales caractéristiques. Le schmilblick des frères Foderche est, il convient de le souligner, rigoureusement intégral, c'est-à-dire qu'il peut à la fois servir de schmilblick d'intérieur grâce à la taille réduite de ses gorgomoches et de schmilblick de campagne grâce à sa mostoblase et à ses deux glottocifres qui lui permettent ainsi d'urnapouiller les ischioploques même par les plus basses températures. Intense, n'est-ce pas ? Mes collègues ont un regard hilar, ça s'entend pas à la radio mais ils sont morts de rire. Mais l'histoire passionnante du schmilblick, elle s'arrête pas là. Déjà, le terme devient super populaire et devient une sorte de synonyme pour truc, machin. Et c'est toujours comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui. Ce mot est totalement entré dans notre langue et peut même se trouver dans le dictionnaire. Mais c'est allé encore plus loin quelques décennies plus tard. Enfin, quelques décennies, j'exagère un peu, 19 ans plus tard. C'est en 1969 que Guy Lux crée l'émission Le Schmilblick. L'idée est de faire deviner le nom d'un objet à l'aide d'images et d'indices. Le jeu devient hyper populaire. Quand un candidat ne pose pas une bonne question et n'obtient pas d'indice utile, l'animateur dit souvent « Eh ben, ça fait pas avancer Schmilblick !» Et voilà, vous avez l'origine d'une expression également courante en français, encore issue de ce mot complètement inventé. Bon, le fait que Coluche ait fait un sketch sur le Schmilblick en utilisant l'expression est peut-être pas entièrement étrangère à sa popularité. Avant de finir, une dernière chose. Encore une fois, ça s'entend pas à la radio, mais visiblement, le mot est passé par plein de crises orthographiques. Il y a bien eu 4 ou 5 orthographes différentes et à chaque fois modifiées de manière arbitraire. Parfois il y a un C, parfois il y a un K, parfois il n'y a pas de L. C'est vraiment qu'on est loin de l'hermétisme espérantiste au changement linguistique.
Eh bien, je ne verrai plus ce mot comme avant, merci Louis. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec Opipola du groupe islandais Sigur Rós. Les paroles sont principalement en islandais, mais sont parsemées en fait, de phrases en vonlenska. Je ne suis pas sûre de la prononciation, encore une fois. C'est un langage que le groupe a créé en fait, pour ses chansons.
Fight blown, I'm living and lives and I'll share.
Vous êtes sur Prune, 92 FM. Vous écoutez Langue de Prune, l'émission On n'a pas la langue dans nos poches. Aziz va maintenant nous parler du ladan, une langue qui a été créée par une femme pour... Pourquoi en fait?
Pour les autres femmes. Dans le tout premier épisode de Langue de Prune, on a parlé de l'influence du patriarcat sur les langues naturelles. Par exemple, en français, il y a deux genres, le masculin, le féminin, et le masculin occupe une place beaucoup plus importante. C'est pourquoi il y a toute une démarche pour rendre les langues plus inclusives. Mais ça ne marche pas toujours hyper bien, parfois c'est un petit peu lourd, notamment en français. Et on se demande parfois s'il ne faudrait pas repartir de zéro et créer une langue totalement différente, une langue qui inclurait tout le monde, une langue féministe. Et il y en a déjà une, du coup, le Laadan, mais qui a une ambition un peu plus grande que simplement d'être inclusive. Elle a été créée dans les années 80 par Suzette Haden Elgin, qui est linguiste et romancière de science-fiction. Elle l'a construite pour l'intégrer à sa trilogie Native Tongue, qui imagine un futur dystopique où les femmes ne peuvent pas voter, sont sous la tutelle de leur mari ou de leur père. Et dans ce futur, il y a un groupe de femmes linguistes qui décident de résister et d'inventer une langue pour s'émanciper du patriarcat, le Laadan. Et l'objectif de cette langue, que ce soit dans les romans comme dans la vraie vie, c'est de permettre aux femmes d'exprimer leur réalité. Et d'après l'autrice, la linguiste, c'est pas possible avec les langues existantes. Elle se base sur l'hypothèse de Sapir-Whorf, selon laquelle la langue qu'on parle, ça influence nos catégories de pensée. On n'organise pas pareil l'espace, le temps, selon notre langue. Un exemple qu'on donne souvent, c'est celui des Inuits. Ils ont 50 mots pour parler de la neige, donc c'est en lien avec leur réalité qui n'est pas la même que la nôtre. Si on s'appuie sur cette théorie, qui a pas mal été critiquée depuis, c'est vrai, parler des femmes avec une langue structurée par la domination masculine, ça ne peut pas marcher. L'idée d'une langue créée pour les femmes, c'est de pouvoir nous permettre de parler de l'oppression patriarcale. Et donc c'est pour ça qu'elle a créé cette langue. C'est une langue agglutinante. On ajoute aux mots des préfixes et des suffixes qui là vont indiquer les émotions, les intentions. C'est des choses que d'habitude on communique, mais plutôt avec le paraverbal, avec l'intonation, l'expression du visage, les gestes. Donc là, c'est vraiment dans la langue. Par exemple, il y a le préfixe « doux » qu'on peut ajouter au verbe pour apporter la nuance qu'on a essayé de faire la chose en question. « Bi, eril, douchad, lewa, j'ai essayé de venir. » Attention, il y a un autre préfixe « doux ou », c'est pas le même, qui veut dire « essayer, mais pas y arriver ». L'idée un peu là-dessous, c'est que ces informations sur la sensibilité, les relations, sont plus souvent communiquées par les femmes parce qu'elles ont été socialisées comme ça, à devoir prendre soin des autres, à être dans l'affectif. Alors, autre caractéristique de la grammaire, c'est que dans une phrase en Laadan, il y a trois particules. La particule de discours, qui est au début de la phrase, et qui indique l'intention du locuteur. Donc on va mettre « bi » si on déclare quelque chose, « ba » pour poser une question, « bé » pour donner un avertissement. La deuxième particule, c'est celle du temps grammatical, passé, présent, futur, quelque chose d'hypothétique. Et la dernière, c'est la particule évidentielle, qui permet de savoir si on peut vraiment croire ce qu'on est en train de nous dire. Elle indique la crédibilité de la source, en fait. Donc il y a une particule quand on est en train d'inventer ce qu'on dit. Il y a une autre particule quand on fait confiance à la source de notre information. Est-ce que vous voyez un petit peu quels autres degrés de crédibilité on pourrait avoir
Quand on cite le Figaro.
Exactement, quand la source de l'information n'est pas fiable. Il y a aussi quand on parle de quelque chose dont on a rêvé. Et ma préférée, c'est quand on reconnaît qu'on ne connaît rien du tout au sujet. Et c'est vrai que dans la vraie vie, les femmes sont éduquées à croire qu'elles savent rien sur rien. Et donc généralement, elles ne parlent pas de ce sur quoi elles ne savent rien. Et à l'inverse, beaucoup d'hommes vont le faire très très régulièrement. Autre caractéristique du Laadan, le féminin l'emporte sur le masculin. En français, on utilise le masculin dès qu'on ne parle pas exclusivement de femmes. En Laadan, c'est l'inverse. La forme de base, c'est celle du féminin. Si on veut mettre le mot masculin, on rajoute le suffixe « id ». Dans cette langue, il y a aussi une grande place à l'affect, et le vocabulaire affectif est beaucoup plus développé. Je vais prendre l'exemple des mots différents pour désigner l'amour. Je donne juste quelques exemples, il y en a bien d'autres. Il y a un mot pour l'amour pour quelque chose d'inanimé, un mot pour l'amour sans respect, l'amour avec désir sexuel, l'amour avec du désir sexuel mais qui a maintenant disparu, l'amour qui est un fardeau, l'amour familial, l'amour du mal. Et j'en passe et des meilleurs. Suzette a donné Jean, elle a créé cette langue en espérant que les femmes s'en emparent, ou s'emparent de l'idée et puis créent une autre langue pour les femmes. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Il y a une petite communauté qui le parle et qui le fait vivre, mais elle est très réduite. Donc elle en a conclu que les langues naturelles n'empêchent pas d'exprimer les spécificités de l'expérience féminine. Et c'est vrai que toutes les particularités de sa langue, comme préciser la crédibilité de la source, son intention, on peut le faire avec nos langues, mais on va rajouter des gestes, rajouter des mots. Ce que j'ai pas réussi à savoir, c'est si la créatrice considère que les femmes accordent plus d'importance aux émotions et aux relations, parce que c'est dans leur nature, ou à cause de la socialisation genrée, le fait qu'elles ont été socialisées différemment des hommes. De mon côté, je penche carrément pour la deuxième option. Quoi qu'il en soit, il y a besoin de mettre des mots sur cette réalité. Et même si le Laadan n'a pas vraiment pris, pour autant, le lexique sur l'oppression subie par les femmes, il se développe de plus en plus. Maintenant, on parle de féminicide, pour parler des femmes qui sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, alors qu'avant, on parlait de crimes passionnels. Une langue qui serait parlée essentiellement par des femmes, ça permettrait aussi d'avoir un espace pour parler des oppressions subies. Donc c'est un peu, pour moi, une version tarabiscotée des réunions en non-mixité, qui marche un peu moins bien, parce que c'est quand même un peu plus fatigant d'apprendre une nouvelle langue. Et du coup, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait cette démarche, et probablement que le Laadan ne percera jamais. Mais par contre, on peut se dire que peut-être que nos langues, elles pourraient s'en inspirer un peu plus, et accorder plus de place à une vision plus féminine des choses. Quand je dis féminine, je veux dire bien sûr que donner plus d'importance à la sensibilité, au relationnel, c'est quelque chose qu'on associe traditionnellement aux femmes. Mais si c'était plus présent dans nos langues, peut-être que ce serait plus présent dans la société en entier, et ce serait pas mal. On va terminer notre découverte du Laadan en écoutant sa créatrice lire un passage de son livre, en Laadan bien sûr. Beaucoup de femmes portaient un fardeau. Les femmes dirent : nous n'avons pas de langue. Les hommes ont une langue, tandis que nous, non. Nous voulons parler, mais il y a beaucoup de mots que nous n'avons pas. Nous voulons parler, mais nous ne pouvons pas. Et ensuite, les linguistes dirent : nous allons vous aider.
Merci Azilis. Nous allons maintenant revenir vers Guillaume pour notre dernière chronique d'ici et d'ailleurs.
D'ici et d'ailleurs.
Pour parler du fait de porter un pantalon trop court, l'expression « aller à la pêche moule » est là pour nous. C'est la seconde expression la plus répandue pour parler de cette situation juste après avoir le feu au plancher. On peut aussi dire « aller aux fraises », avoir de l'eau dans les caves, ou dans la cave, ou à la cave, cela dépend des régions. Avoir le feu au plancher semble être un peu extrême, mais l'image est plutôt claire. Voilà, on remonte le pantalon, ok, il fait chaud, patati patata, on est en train de cramer. Pour ce qui est d'aller aux fraises, elle n'est utilisée que dans l'est de la France. Et d'autres sens peuvent être donnés à cette expression qui sont errer sans but, mais aussi pour parler de personnes à la recherche d'un coin tranquille pour se livrer à des ébats dans la nature. Car la cueillette des fraises des bois était un prétexte à chercher un lieu écarté propice aux ébats amoureux. Mais sortons des bois et retournons à la plage. Aller à la pêche aux moules et ses variants, aller à la pêche, tout court, aller à la pêche aux crevettes ou aller à la pêche aux grenouilles sont surtout employés dans le Grand Ouest, dans le Grand Ouest de la France et l'extrême Sud-Est avec la Corse. Cela paraît plutôt logique quand on y pense. Lorsque l'on va pêcher des moules, il suffit de remonter le pantalon pour qu'il ne soit pas mouillé. Mais alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi c'est le cas, et je dois alors remercier ma sœur pour les musiques qu'elle écoutait lorsqu'elle était enfant, mais cette phrase est d'abord une comptine avant d'être une expression pour parler d'un pantalon trop court. Qui plus est peut-être juste un pantacourt. On va arrêter de juger maintenant. Et d'ailleurs, la signification de cette comptine, donc aller à la pêche aux moules, c'est vraiment pas la meilleure au monde, puisque en fait elle parle d'une fille qui ne veut plus aller en vie car les gens de la ville l'ont violée. Voilà, je vous laisse chanter ça à vos enfants. Donc quitte à décider entre une expression qui peut rappeler une comptine avec une signification assez sombre, une autre où il y a le feu au plancher et c'est pas la meilleure des situations, on va pas se mentir, je pense que je vais me mettre à employer celle de l'Est avec les fraises. Ça donne beaucoup plus envie, je ne sais pas pour vous. Après, je vous laisse réfléchir dans quel sens exact je vais utiliser cette expression. Sur ce, je vous laisse, je vais aller aux fraises.
Eh bien, ça c'est dit, merci Guillaume. Et on va enchaîner avec la dernière chanson pour aujourd'hui. On va écouter Children of Windaclaw de Nosfeld. C'est un artiste français qui chante en clocobed. C'est une langue qu'il a inventée et tout, il chante quasiment toutes ses chansons dans cette langue-là. Donc au bout de notre voyage. On l'a vu, la création d'une langue peut donc avoir une vocation politique. On a vu ça par exemple avec Louis, Azilis. Ça peut naître d'une volonté de casser les codes préétablis, de simplifier la communication entre des personnes d'origine de langues différentes. Mais il peut y avoir aussi pour la création de langue un but plus artistique. On a entendu des extraits là en musique, mais aussi dans le cadre de fiction. Je vous en ai parlé, Guillaume, un peu aussi. Dans ce cadre-là, ça permet en fait déjà de développer l'univers qu'on crée, mais aussi surtout de donner une voix à l'autre, à ce qu'on ne connaît pas, ce qui n'est pas humain. Même si on ne comprend pas tout, en fait, il est plus facile d'empathiser avec des personnes qui ont un langage qui semble défini, structuré. Et ça va être tout pour aujourd'hui. On va se retrouver du coup le 22 février, comme d'habitude à midi, dernier mardi du mois. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée.
À plus dans le bus. À plus tard dans
le car.
À bientôt
dans le
métro.
À mardi dans le
à
taxi.
Plus tard,
très
dans
vite
le car.
Dans le cockpit.